Alors, en apéritif, on va vous proposer d'élargir le regard et de regarder donc nos voisins belges et voir comment eux, ils financent la santé mentale, la psychiatrie. Pour ce faire, le docteur Xavier de Longueville, donc directeur médical, là aussi une particularité du fonctionnement en Belgique, de l'hôpital psychiatrique du Beauvallon à Namur, c'est une ASBL qui est l'équivalent de notre loi de 1901, le plan associatif.
Voilà. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis très impressionné de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à ces questions. Au départ, quand on m'a demandé de parler d'un modèle belge, j'étais un petit peu circonspect. Je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qui serait modèle en Belgique? Et puis finalement, en écoutant un peu ce qui s'est dit ce matin, j'ai sans doute changé un petit peu la façon de présenter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été testées en Belgique avec plus ou moins de succès, mais comme ça, ça permettra peut-être quand même d'enrichir votre réflexion. Alors, un modèle de financement, c'est s'inscrit dans une histoire et dans une construction politique et administrative. Donc, je ne sais pas faire sans vous expliquer un petit peu comment les choses se sont construites de ce point de vue-là. Donc, en 1948, première étape pour comprendre les choses, les hôpitaux psychiatriques passent du ministère de la Justice à celui de la Santé. Je pense que c'est à peu près la même chose en France. Et donc, le paiement n'est plus fait par le ministère de la Justice, mais bien par celui de la Santé. Reste la psychiatrie en prison qui est toujours payée par le ministère de la Justice aujourd'hui. Les médecins de prison, les psychiatres de prison sont des médecins, sont des fonctionnaires du ministère de la Justice. Et donc, vous me permettrez d'exclure ce périmètre de ma réflexion. Alors, 1963, la plus grande loi et la seule loi actuellement sur les hôpitaux en Belgique. Donc, jusque-là, tout le monde faisait ce qu'il voulait, faisait le nombre de lits qu'il voulait, faisait la taille, s'installait où il voulait. En 1963, l'État décide de créer donc l'Institut National de Maladie Invalidité, c'est INAMI, j'en parlerai beaucoup, donc c'est la Sécurité Sociale, et de créer donc ce qu'on appelle la programmation, donc la possibilité pour une structure hospitalière d'avoir ou non des lits, hein, donc de créer des lits. Donc en Belgique, le modèle, il est au volume, hein, c'est au nombre de lits dont on dispose et au remplissage de ces lits. Et donc on crée en 1963 les deux types de lits psychiatriques qui existent toujours aujourd'hui, les lits A, qui sont les lits de traitement aigu, et les lits T, qui sont les lits de traitement chronique, le C étant déjà pris par la chirurgie. Donc on a dit T. Donc, les lits de traitement, alors ces lits, comment sont-ils financés? Ces lits A et ces lits T, donc ils sont financés donc pour des honoraires qui vont à l'hôpital, si on peut dire, par un prix de journée, comme on appelle ça. Donc chaque journée réalisée dans un hôpital génère un prix de journée payé par les mutuelles. Ce prix de journée, il est calculé, il est différent pour tous les hôpitaux, il est calculé en fonction de différents critères, le niveau de formation des gens, la modernité des bâtiments, enfin on y reviendra tout à l'heure, il y a toute une série de critères qui permettent de mesurer son prix de journée. Et à côté de ça, des honoraires de surveillance médicaux qui, selon le type de lit et selon la durée du séjour, changent. C'est-à-dire que dans un lit A, on a un honoraire de surveillance médicale très élevé dans les 10 premiers jours, il diminue du jour 10 au jour 30, et après 3 mois, il est quasiment inexistant. Et dans les lits T, il part beaucoup plus bas, mais il reste un petit peu plus longtemps dans le temps, ce qui permet de prendre en charge les patients plus longtemps et d'avoir tout de même des honoraires de surveillance médicaux. Et donc il y a déjà une notion liée à la durée de séjour. Donc en même temps, on essaie de... C'est un modèle basé sur le volume, donc on doit faire des journées pour gagner de l'argent, mais on a quand même intérêt à faire plus de journées de court séjour que de long séjour si on veut gagner beaucoup d'argent. Alors dans les années 70, donc jusque-là, il y avait uniquement toute la santé mentale était dispensée dans les hôpitaux psychiatriques, jusque-là, et donc on crée à ce moment-là des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux et des unités de crise. Alors, jusque-là, tout se faisait dans les hôpitaux psychiatriques. En 1975, c'est la toute première phase des grandes réformes. Donc on crée des services de santé mentale ambulatoires qui n'existaient pas jusque-là. Et ce qu'on appelle les plateformes de concertation. Donc vous allez voir que dans le modèle belge, on se concerte tout le temps pour tout. Et donc les plateformes de concertation, c'est sur une région donnée. Toutes les institutions qui donnent des soins de santé mentale et des soins de psychiatrie sont regroupées, sont représentées afin d'avoir un dialogue avec l'autorité politique sur les besoins liés à cette zone spécifique. Donc ça s'appelle les plateformes de concertation, ça existe toujours aujourd'hui, c'est toujours fonctionnel. Alors, il y a l'interplateforme qui réunit toutes les plateformes, et ainsi de suite, en poupée russe. En 1990, donc, il y a la volonté de... Donc, les hôpitaux belges étaient des mastodontes de plusieurs milliers de lits, d'hôpitaux psychiatriques. Il y a eu la volonté de diminuer cette taille de lits. Et donc, on a créé ce qu'on appelle les maisons de soins psychiatriques, qui sont des services pour patients stabilisés chroniques, et les initiatives d'habitation protégée, qui sont des appartements supervisés dans la ville. Alors, comment est-ce qu'ils ont créé ça? On devait chaque fois donner un certain nombre de lits hospitaliers pour créer un certain nombre de lits extra-hospitaliers, que ce soit en maison de soins psychiatriques ou en habitation protégée. Donc, par exemple, l'hôpital où je travaille, on a maintenant 400 lits hospitaliers, 90 lits de maison de soins psychiatriques et 90 lits d'habitation protégée. Et donc, on vient de 1000 lits juste avant les années 90. Donc, on a fermé progressivement des lits pour faire des structures extra-hospitalières. En 2011, une seconde réforme, enfin la seconde phase de la réforme, comme ils appellent ça, donc c'est l'activation de l'article 107, je vous expliquerai. Donc c'est l'article 107 sur de la loi sur les hôpitaux. C'est incompréhensible, mais on va quand même essayer de comprendre un peu comment, ce que ça veut dire. Donc, qui permet de créer des équipes mobiles et des réseaux de soins en santé mentale. Donc de nouveau, même chose, on donne un certain nombre de lits et le personnel exactement équivalent à ces lits hospitaliers devient équipe mobile. Et donc, le financement de ces équipes mobiles passe toujours par le budget des hôpitaux. C'est toujours des employés de l'hôpital, sauf qu'ils ne sont plus dans un service hospitalier, mais sur la route auprès des patients. On en parlait avec le docteur Muller à la pause. Ce ne sont évidemment pas les mêmes patients qui sont pris en charge. On a fermé des lits chroniques avec des patients psychotiques lourds, avec des troubles somatiques sévères, avec parfois du retard mental, presque toujours des troubles du comportement. On a pris en charge en équipe mobile, pas du tout ces patients-là. Donc il y a quand même une dérive du budget qui est retirée des patients les plus nécessiteux en soi, ceux qui ont le plus besoin de nos soins, vers de la santé mentale, qui pourrait souvent être faite autrement que par ces équipes mobiles. Donc il y a en tout cas de l'argent qui transite là, d'un modèle à l'autre. Très très vite, parce qu'il faut comprendre, pour la suite il faut comprendre ça aussi, mais je ne vais pas vous embêter avec de l'architecture institutionnelle belge, qu'on appelle chez nous la plomberie institutionnelle, donc voilà. Mais il faut quand même comprendre un tout petit peu, sinon on ne comprendra plus la suite. Donc trois régions, trois communautés, jusque là ça va, un état fédéral, c'est là que ça se complique. Donc les régions, trois régions, la Flandre au nord, Bruxelles en bleu au milieu, et la Wallonie dans le fond. La Wallonie est deux fois moins peuplée que la Flandre, mais deux fois plus grande. C'est important pour la territorialité, comme on disait tout à l'heure. De l'autre côté, les communautés, donc la communauté flamande, où on parle flamand, la communauté française de Belgique, c'est un terme très impropre, puisqu'on n'a pas été très très longtemps français en Belgique. De 1794, je mappe à 1815, Waterloo, c'est tout. Et la communauté germanophone, puisque nous avons 70 000 personnes de langue allemande qui vivent en Belgique, on a trois langues nationales. Donc les communautés s'occupent de ce qu'on appelle les matières personnalisables. Donc, vous allez comprendre maintenant la complexité par rapport à la santé mentale. Donc les matières personnalisables comme la culture, l'enseignement, c'est ce qui sont liées à la personne. Et les régions s'occupent des matières territoriales, donc ce qui est lié au sol. Donc, c'est évidemment, quand on va parler de territorialité, quand on va parler de santé mentale, de psychiatrie, tout se mélange et donc tout le monde décide. En Belgique, il y a 10 ministres de la santé. 10 ministres responsables de charge de la santé. Il y en a dans chaque communauté, dans chaque région. Il y en a un fédéral et il y en a encore à Bruxelles, parce que Bruxelles, il y a des trucs entre les Flamands et les Wallons, des trucs rien qu'entre Flamands, rien qu'entre Wallons. Enfin, tout ça est très compliqué. Donc, ça, je vous l'épargne. Bien. Alors, dernière petite note d'introduction. Il y a 6 secteurs principaux de la santé mentale, si on ne compte pas les psychiatres libéraux, les psychiatres qui consultent hors toute institution, vraiment privée, comme on dit chez nous, qui sont remboursés donc par l'INAMI en partie, toujours une quote-part patient, j'y reviendrai aussi. Alors, il y a donc 6 secteurs principaux. Les hôpitaux psychiatriques qui s'occupent des équipes mobiles, qui ont la grosse majorité du budget. Les services psychiatriques dans les hôpitaux généraux, qui sont payés via le budget des hôpitaux généraux dans lesquels ils sont. Donc, je vous ai dit, les initiatives d'habitation protégée et les MSP, qui sont des structures autonomes extra-hospitalières, mais qui, en pratique, sont sous la gestion d'un hôpital. Donc, là aussi, les budgets transitent par les hôpitaux, sont gérés par les financiers des hôpitaux. Les centres de santé mentale, qui, eux, sont tout à fait autonomes des structures hospitalières. On en a parlé aussi. Et alors, les centres de réadaptation et d'insertion psychosociale, donc les centres de réadaptation fonctionnelle, qui sont donc des centres ambulatoires axés sur la reprise du travail ou la réinsertion des patients psychiatriques de longue durée. Donc, ce sont les six principaux secteurs qui sont financés dans la santé mentale. Si, plus les psychiatres libéraux, mais c'est un autre système. Bon, là, jusque-là, c'était la partie facile. Voilà la partie difficile. Bon, c'est très compliqué, mais on va essayer de rendre ça très simple. Hein. C'est le principal slide. Donc, vous voyez que nous avons donc un gouvernement de l'État fédéral, un gouvernement de la région Wallonne et un gouvernement de la Fédération de Bruxelles ou de la Communauté française de Belgique qui ont tous des compétences en matière de santé. Alors, il existe une conférence interministérielle où, heureusement, tous ces gens-là se parlent. Et cette conférence interministérielle, donc, qui réunit tous ces ministres de la Santé dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a ça après pour Bruxelles, la Flandre, etc. Donc, cette conférence interministérielle a gardé des compétences, donc l'e-santé qui est en plein développement. Donc, à partir du mois de janvier de l'année prochaine, on ne pourra plus faire de prescriptions papier, ce sera tout sur la carte d'identité des patients, etc. etc. Donc, il y a l'e-santé qui reste une compétence de la conférence interministérielle. Donc, 10 ministres doivent tous tomber d'accord pour prendre une décision. Et l'Observatoire des maladies chroniques, donc, qui concerne aussi en partie la psychiatrie, mais donc les maladies chroniques sont un petit peu sorties des logiques territoriales et remises au niveau de la conférence interministérielle. Alors, la région Wallonne, elle finance et elle organise, elle gère, elle programme les centres de santé mentale. Ça, c'est vraiment une compétence régionale pure. Donc, les services de soins ambulatoires qui sont financés, mais aussi on peut décider, on ne peut pas en ouvrir comme on veut, ils sont inspectés par la région Wallonne, etc. C'est purement la région Wallonne. Qui s'en occupe. La région Wallonne, elle finance, depuis la dernière réforme de l'État belge en 2014, elle finance également toutes les structures extra-hospitalières, donc les MSP, les IHP dont je parlais tout à l'heure, plus les maisons de repos, dans lesquelles on trouve évidemment les patients psychiatriques de plus de 65 ans, et ce qu'on appelle SRA, donc services résidentiels pour adultes, donc qui sont pour les adultes handicapés, qui sont occupés à moitié par les Français, parce que ça paye beaucoup mieux un patient français qu'un patient belge. Donc il y a un gros manque de place à ce niveau-là. Et donc toutes ces structures-là sont totalement régionalisées, totalement financées par la région Wallonne. Elles sont là financées par la personne, c'est-à-dire que c'est par personne qu'on touche dans les SRA. Donc chaque patient vient avec son dossier qui a, selon la lourdeur de la pathologie, une certaine valeur et qui permet d'avoir un prix de journée particulier. Alors, depuis 2014 aussi, la région Wallonne est aussi responsable du financement des bâtiments hospitaliers, puisqu'ils ont des compétences territoriales. Le législateur a trouvé adéquat de dire que sur ces compétences territoriales, la construction des bâtiments devait être financée par le gouvernement de la région Wallonne. Depuis la réforme de 2014, le gouvernement de la région Wallonne peut également lever des impôts et récolter une partie des cotisations sociales. Jusque-là, c'était le gouvernement fédéral qui distribuait en son bon vouloir. Maintenant, les régions peuvent directement prélever de l'impôt depuis 2 ans. Alors, au niveau fédéral, donc, nous avons cette INAMI, donc Institut National de Maladie et Invalidité, je vous le rappelle, hein, donc, qui gère et organise toutes les mutuelles, tous les organismes assureurs, il y en a un certain nombre donc, sur lesquels on cotise et qui permettent d'avoir un remboursement des soins dont la hauteur est décidée par l'INAMI. Donc, par rapport aux hôpitaux, donc, les hôpitaux sont financés via ce qu'on appelle le BMF, j'y reviendrai, donc le budget des moyens financiers, qui est décidé par l'État fédéral, en partie payé par les régions, donc je disais bien que ça devenait compliqué, qu'on facture, je vous expliquerai après, mais en fonction de l'activité. Qu'on facture aux mutuelles en fonction de l'activité, donc c'est un budget, comme on disait tout à l'heure, qui est parfois très difficile à prévoir, puisqu'on calcule par rapport à l'activité de l'année précédente. Donc on ne sait pas toujours si on gardera notre niveau d'activité ou pas, donc c'est parfois compliqué de faire un budget dans un hôpital psychiatrique en Belgique. Donc, on a un financement, donc je vous expliquerai, par le BMF pour les établissements hospitaliers, un financement via la région Wallonne, un financement par la population, puisqu'en Belgique, d'une manière globale, ça dépend un petit peu des études, mais 17 à 22% des soins sont payés directement de la poche. du patient. Donc il y a tout un système de sécurité sociale un peu comme en France, mais donc il y a une part, une quote-part patient qui est quand même assez élevée. Je parle des soins en général. Hein, donc c'est alors selon les études, ça nous place en deuxième ou quatrième place là où ça coûte le plus cher, où la santé coûte le plus cher aux patients dans l'OCDE, après la Suisse, donc, avec d'autres moyens que nous. Alors, une caractéristique du système belge aussi, c'est que les établissements hospitaliers sont aussi financés en partie par l'activité médicale. Bon. Globalement, pour toute la santé, 40% du financement hospitalier vient de ponction des hôpitaux sur l'activité médicale. 40%. En psychiatrie, c'est moins parce qu'on a moins d'actes purement techniques pour lesquels l'hôpital peut justifier une ponction élevée parce qu'il y a du matériel coûteux ou un grand personnel qui est nécessaire pour faire fonctionner ce matériel. Mais donc, une partie du financement des hôpitaux psychiatriques vient aussi de ce qui est prélevé. Donc, c'est ce que j'appelais tout à l'heure des honoraires de surveillance. Notre hôpital prélève une partie de frais de gestion administrative et de secrétariat sur ces honoraires pour se financer. Donc, il y a un financement qui vient aussi des médecins. Hein. C'est un système qui est beaucoup discuté, j'y reviendrai aussi, parce que ça nécessite dans chaque hôpital, ce que j'ai noté là, commission financière paritaire, on en a un dans notre hôpital aussi, où des médecins et des dirigeants de l'hôpital sont autour d'une table et disent qu'est-ce qu'on ponctionne là-dessus ? Grand concours de marchands de tapis, 6%, 8%, non, 7%, enfin voilà, et puis on a fini par s'arranger. Mais donc ça existe dans tous les hôpitaux pour négocier un petit peu la hauteur des retenues par l'hôpital sur tous les types d'honoraires. Donc on a des retenues sur nos consultations, des retenues sur nos honoraires de surveillance, des retenues sur les EEG qu'on fait à l'hôpital, des retenues sur les ECG que font nos médecins généralistes, des retenues sur tous les examens, tous les types d'interventions médicales qui sont proportionnelles à l'intervention de l'hôpital dans le fonctionnement de ces actes médicaux. Alors, je mets les organismes assureurs couverture complémentaire. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, c'est de plus en plus à la mode, à tel point que le Conseil d'État vient d'intervenir parce qu'il y a un souci de boule de neige. Tout le monde prend une assurance hospice complémentaire. Ça devient comme à l'américaine, dans tout package d'un cadre moyen, il faut avoir l'assurance hospitalisation complémentaire pour ne rien payer quand on va à l'hôpital. Alors, les hôpitaux qui ne sont pas bêtes augmentent la quote-part patient, puisque de toute façon, tout est remboursé par l'assurance. Donc, l'assurance augmente. Donc, le prix de journée augmente. Donc, l'assurance augmente. Et donc, c'est parti. Et donc, il y a ici, maintenant, le Conseil d'État est intervenu pour dire, attention, il faut qu'on régule un petit peu tout ça, qu'on mette une limite à ce qu'on peut demander comme supplément aux gens qui ont une assurance. Bien. Alors, deuxième caractéristique du système, à part donc tous ces financements qui viennent d'un peu partout, hein, mais donc le grand principe, c'est vraiment le double financement, une partie par l'activité, par le nombre de lits occupés via la mutuelle et l'INAMI, et une partie via l'activité médicale et le nombre d'actes réalisés ou de consultations réalisées. Et donc, à côté de ça, ce qui est important aussi de voir dans ce schéma un peu lourd, c'est l'ensemble des niveaux de concertation. Donc, comme je disais tout à l'heure, on se concerte beaucoup. Donc, on se concerte dans les hôpitaux entre médecins et direction pour voir combien d'argent va d'un côté et de l'autre. On se concerte entre syndicats de médecins et INAMI pour savoir quelle sera la hauteur des honoraires qui est chaque année. Donc, c'est ce qu'on appelle la convention médico-mutualiste, à laquelle chaque médecin est libre ou non d'adhérer, et donc qui définit le remboursement et le prix maximal qu'un médecin peut demander pour une consultation ou pour tout acte technique. Donc il y a une concertation là-bas aussi. Il y a une concertation dans ce qu'on appelle le Conseil général des soins de santé avec donc la FEB, les patrons des patrons, donc les syndicats de patrons, les syndicats, et donc ce qu'on appelle les partenaires sociaux, l'INAMI, les représentants du ministère, pour déterminer les grandes lignes de la politique de santé pour les années à venir. Il y a de la concertation, je vous dis, de la conférence interministérielle, de la concertation dans le Conseil fédéral et puis les conseils wallons et conseils communautaires des établissements de soins ou des établissements hospitaliers, donc où on discute aussi de comment est-ce qu'on va évaluer telle ou telle chose. Donc ça discute tout le temps, beaucoup. Voilà, ça discute entre des gens qui n'ont pas toujours la même vision, parce que c'est les syndicats ou les patrons, parce que c'est les flamands ou les wallons, parce que c'est des différents piliers sociaux de Belges. Enfin, et donc, c'est parfois lent, mais quand une décision peut être prise, évidemment, elle l'est avec le consentement de chacun. C'est le système à la Belge. Voilà. Et alors, pour l'anecdote, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a la tutelle sur les hôpitaux universitaires et sur toutes les missions d'enseignement, donc les hôpitaux universitaires qui disposent aussi de moyens de soins en santé mentale et en psychiatrie. Alors, pour vous expliquer comment est financé un petit peu un hôpital en Belgique, puisque je vous expliquais que c'était le principal moyen, le principal, l'institution la mieux financée de la santé mentale. Donc, ce BMF, c'est vraiment ce budget des moyens financiers, c'est vraiment le symbole de l'hospitalocentrisme à la Belge. Donc, tout était, mais vous l'avez vu dans l'histoire, au départ, ce n'était que l'hôpital, on essaye de retirer des petits bouts petit à petit, mais c'est évidemment très compliqué, parce que ce sont des gros pourvoyeurs d'emplois, les hôpitaux, parce que c'est un secteur qu'on ne va pas pouvoir délocaliser, donc on ne peut pas comme ça retirer des morceaux sans compenser par ailleurs. Donc, vous l'avez vu. En général, on nous demande d'échanger des lits contre autre chose, mais on garde la gestion financière des structures ainsi créées, qu'elles soient ambulatoires ou résidentielles extra-hospitalières. Alors, c'est calculé par le service public fédéral, donc par le ministère de la Santé, payé via les organismes assureurs, donc payé via les mutuelles. Alors, c'est là que c'est compliqué aussi. Donc, c'est versé à 80%, c'est un modèle au volume, donc c'est un modèle au nombre de journées d'activité, mais il n'est pas payé, on ne facture pas à la fin de l'année toutes nos prestations. On facture ça au fur et à mesure, et donc il y a un système assez alambiqué qui fait que, donc au mois de juin, on nous donne notre BMF prévisionnel. On nous dit, vous devriez pouvoir compter sur à peu près autant d'argent. À partir du mois de juillet, on touche un 12e de 80% de cette somme tous les mois. D'accord ? Et le reste, les 20% restants, sont facturés en fonction du nombre de journées qu'on a réalisées chaque trimestre. Donc on dit aux mutuelles, nous avons réalisé autant de journées, vous nous devez donc autant d'argent. Vous devez donc 20% du prix de journée pour toutes ces journées-là, puisque 80% a été payé forfaitairement chaque mois. D'accord ? Donc ça permet d'atténuer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la question de comment est-ce qu'on prévoit son budget, comment est-ce qu'on investit si on doit chaque fois être en retard. Et donc, contrepartie de ceci, chaque année, il y a ce qu'on appelle le rattrapage, qui est la partie qu'on doit rembourser à l'INAMI si on n'a pas fait le même nombre de journées que l'année précédente. Si on est en dessous du budget de l'année précédente, chaque année, il y a un rattrapage. Et s'il y a un rattrapage positif, dans notre hôpital, c'est le cas depuis des années, donc si on retouche encore de l'argent supplémentaire directement parce qu'on a eu plus de journées que ce qui avait été prévu au départ. Donc ça couvre différents aspects du financement hospitalier. Je vais revenir sur la dia suivante. Mais donc je vous disais, la construction, la formation du personnel, le vieillissement des travailleurs, enfin ça, on va y passer ça en revue, l'officine hospitalière, le personnel technique, enfin ça couvre toute une série d'aspects du financement hospitalier. Donc calculé en juin, je vous l'ai dit, on reçoit notre BMF, alors c'est toujours le grand branle-bas de combat dans l'hôpital. On a reçu le BMF, alors on va tous voir est-ce que ça va aller cette année, on peut engager quelqu'un ou pas. Enfin voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Et donc le BMF des hôpitaux psychiatriques, c'est à peu près 15% du BMF total de tous les hôpitaux. Donc voilà, je ne sais pas, on disait 11% tout à l'heure pour la France. En tout cas, le BMF représente peut-être 85 ou 90% du budget psychiatrique et 15% de ce BMF est orienté vers les hôpitaux psychiatriques. Il faut compter qu'il y a encore des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux qui ne sont pas comptabilisés dans ces 15%. Donc, à mon avis, c'est un peu plus que les 11% français. Ce BMF, donc je vous le disais c'est rapidement, mais donc il y a toutes les charges d'investissement qui sont à hauteur de 7% à peu près. Donc quand on construit un bâtiment, on peut l'amortir sur 33 ans, et donc chaque année on est remboursé d'un petit bout de ce bâtiment qu'on a construit, d'une rénovation importante. On ne fait pas ça pour un changement de robinet, mais si on a rénové tout un service pour plusieurs millions, ça vaut la peine. La grosse partie de ce BMF, c'est le paiement, trois quarts, c'est le paiement du personnel. 44% pour les services cliniques, donc pour payer le personnel clinique, hospitalier, et 30% pour ce qu'on appelle les frais de service commun, donc services techniques, administration, comptabilité, donc tout ce qui est les services communs. Et donc, il y a, en fonction, par lit de nouveau, donc on a des règles, donc vous avez 30 lits A, vous avez droit à, j'invente les chiffres, 10 infirmières, une demi-psychologue, une demi-assistante sociale, plus une logopède si vous voulez, plus ceci si vous voulez. Donc on a une partie qu'on peut décider, mais donc l'ensemble des équivalents temps plein qui sont liés à ces lits sont calculés, c'est le ministère qui nous dit combien on peut avoir d'équivalents temps plein, et donc c'est à partir de là que sont calculés ces frais-là. Ils payent évidemment ce cadre-là. Si on veut trois psychologues au lieu d'un demi qui nous proposent, on les paye dans notre poche. Donc, forfait et recyclage, donc 15%, c'est quand même important. C'est quand même quelque chose d'intéressant de dire, si vous avez du personnel qui est bien formé, qui se recycle régulièrement, vous allez gagner plus d'argent par patient que si votre personnel n'est pas bien formé. puis l'officine hospitalière. Enfin, vous voyez, le reste est un petit peu les mesures de fin de carrière, etc. Donc, on a des jours de congé à partir d'un certain âge supplémentaire. Tout ça est financé par l'État fédéral aussi. Et donc, la partie C, c'est ce que je vous disais, les rattrapages. Donc, en moyenne, pour les, ça, c'est vraiment pour les hôpitaux psychiatriques purement, parce qu'évidemment, dans les services, il y a beaucoup plus de charges d'investissement dans les hôpitaux généraux, puisqu'il y a des machines, etc. Nous, c'est à peu près que les bâtiments. Mais ça, c'est vraiment pour les hôpitaux psychiatriques. Et donc, on rembourse en moyenne dans les hôpitaux psychiatriques 1,68% du budget pour les mauvais calculs de journée. Nous, je vous dis, depuis 30 ans, on a toujours été au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on augmente chaque année. Mais comme tout système de croissance, à un moment, on arrive au bout. On ne sait pas inventer des patients là où il n'y en a plus. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous parlerais rapidement de l'article 107 aussi. Donc, je vous disais que c'était un peu incompréhensible. Donc, je vous le dis. Comme ça, vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi. Le roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de financement de soins axés sur les programmes. Qui a compris ? Donc, ça c'est la loi qui est un petit peu difficile à comprendre, mais en pratique, ça veut dire qu'un hôpital comme le nôtre, donc nous sommes dans une ville de 150 000 habitants, dans un territoire provincial d'à peu près 500 000 habitants, nous avons dû fermer 60 lits chroniques, l'autre hôpital de la région l'a fait aussi. Et donc, on a pu créer avec ça des équipes mobiles qui sont à la taille de cette province, donc de 4 à 500 000 habitants. J'y reviendrai aussi sur la notion de territorialité en Belgique. Mais donc, c'est le territoire de 4 à 500 000 habitants. Et donc, on a gelé, ce qu'on appelle gelé des lits. Donc, ils apparaissent toujours dans notre budget des moyens financiers, mais ils apparaissent une fois en négatif, une fois en positif. Donc, on dit, voilà, vous avez touché autant pour ces lits, on vous retire autant parce qu'ils sont gelés, et puis cet argent-là, il va au financement des équipes mobiles qui sont... Donc, je vous disais tout à l'heure, pour un lité, pour 30 lités, on a X infirmières, X psychologues. Et bien, ce personnel, exactement, à la virgule près, a été transféré aux équipes mobiles, mais est toujours un contrat chez nous, est toujours payé par notre payroll, est toujours attaché à l'hôpital et donc financé par l'hôpital. Mais donc, si vous allez en Belgique, on parle toujours de gros d'équipe 107 ou d'article 107. C'est de ça dont il s'agit. C'est cet article qui a permis de prendre des fonds hospitaliers pour créer des équipes mobiles. Et donc d'organiser, ça c'est ce qu'on a reçu dans tous les... Ça c'est celui pour Namur, pour la ville où je travaille, donc c'est le modèle qu'on a reçu, qu'on devait remplir dans toutes les régions de Belgique, pour dire on a un nouveau modèle en santé mentale, qui est divisé en 5 fonctions, la fonction de prévention de dépistage, une fonction d'équipe mobile, donc qui était avant qu'on crée les équipes mobiles gérées par les médecins généralistes ou les urgences, ou le SMUR. On a une fonction 3 de réhabilitation psychosociale, une fonction 4 qui est l'intensification des soins résidentiels. Mais donc, je vous dis, au départ, c'était que ça, la psychiatrie, ce n'était que cette fonction 4, c'était tous les hôpitaux, tous les services hospitaliers, et puis ce qu'on appelle les habitats spécifiques. Alors, il y a une volonté d'équilibrer un peu le financement entre ces structures, mais en pratique, ils ont mis la 4 en tout petit, mais le financement, il tombe principalement dans la fonction 4, dans les hôpitaux, mais qui disposent de structures qui leur permettent. Donc, on a les équipes mobiles qui dépendent de nous, donc la fonction 2, les habitats spécifiques qui dépendent de nous. Dans la fonction 3, les hôpitaux de jour ou les centres de réadaptation fonctionnelle dépendent de nous, sont financés par nous. Et on a des centres de consultation, des polycliniques qui permettent de faire de la première ligne aussi. Donc, en pratique, l'idée, c'était de diminuer la taille de l'hospitalisation par rapport à l'ensemble des interventions, mais financièrement, tout tombe toujours dans les poches de l'hôpital. Alors, il y a... oui, une petite chose par rapport à tout ça, ce dont on se rend compte, c'est qu'il manque de concertation clinique. C'est que toutes ces structures, donc il n'y a aucun financement prévu pour la concertation. Alors ça existe en pédopsychiatrie. Donc un pédopsychiatre qui rencontre deux personnes intéressées par un enfant en présence ou en l'absence de celui-ci peut facturer un honoraire directement à l'INAMI. Donc le patient n'a rien à payer. Il facture un honoraire qu'on appelle de concertation. Donc qui permet, quand on se réunit pour parler d'un patient, on peut demander de l'argent en pédopsychiatrie, mais pas chez les adultes, sauf s'ils sont hospitalisés. Mais donc c'est un peu le système qui fonctionne à l'envers, puisque nous on voudrait bien externaliser ça, parce que notre intérêt c'est que les patients puissent être pris en charge hors hôpital, mais donc tout est fait pour les garder, puisqu'on ne peut plus facturer de la concertation, on ne peut pas aller voir, se faire payer pour aller voir le psychologue et le psychiatre traitant à l'extérieur, mais on peut le faire s'ils viennent à l'hôpital. C'est un petit peu le système à l'envers. Mais donc en pédopsychiatrie, ça existe. Et donc c'est une négociation actuellement entre les syndicats et les NAMI d'essayer de faire valoir ce qu'on appelle cet honoraire de concertation qui est assez élevé, qui est de 200 euros pour une heure pour les pédopsychiatres. Et donc, qui pousse, évidemment, à plus se concerter, parce que comme on est payé pour voir des patients, mais pas pour voir leur entourage, ou pas pour voir le psychiatre traitant, ou pas pour voir l'assistante sociale du CPAS, on va évidemment faire plus de prestations qui sont remboursées, c'est-à-dire des consultations, et moins de concertations. Or, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans le système. Voilà, on y est presque. Alors, on est en plein changement aussi. Donc, la ministre est en train de créer ce qu'elle appelle des réseaux hospitaliers. Donc, on ne va plus avoir comme unité de base l'hôpital. Donc, ça, c'est pour tous les hôpitaux, mais les hôpitaux psychiatriques ont la possibilité d'y participer dans ce premier round ou seront sans doute obligés dans le second. Mais donc, elle veut créer des réseaux. C'est là que je voulais vous parler de territorialité en Belgique. C'est qu'elle veut créer des réseaux par territoire. Alors, elle a calculé 4 à 500 000 habitants. Format réseau, on est 11 millions. Elle a calculé 25 réseaux nécessaires pour la Belgique. Qui permettront de. Sa volonté, c'est de remonter la programmation des lits, donc la possibilité de créer ou non des lits au niveau d'un réseau et plus au niveau d'un hôpital. Ici, nous, on peut demander, comme hôpital, on voudrait bien créer des lits. Elle nous dit oui, elle nous dit non. On ne pourra plus. C'est le réseau qui pourra demander des lits pour l'ensemble d'un territoire et le calcul sera fait pour l'ensemble d'un territoire. Ce n'est pas encore tout à fait l'actualité pour la psychiatrie. On comprend la logique. Pour certaines opérations rares de chirurgie qui ont besoin d'avoir été faites 30 fois par la même personne pour avoir un peu, chaque année pour avoir gardé un peu la main. On peut imaginer ça pour des matériels d'analyse coûteux. Pour la psychiatrie, il ne parle pas encore de négocier la programmation, mais ce sera certainement la prochaine étape. Et donc, la grosse discussion, c'est que, comme je vous ai dit, Wallonie, moins d'habitants, deux fois plus de surface, Flandre, deux fois plus d'habitants. Donc, 400-500 000 habitants, ça fait une demi-heure de diagonale en Flandre et deux heures parfois en Wallonie. Donc, on voudrait bien que soit insérée une notion de durée de déplacement pour le soin, en plus du simple calcul démographique. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure pour la Creuse. Voilà, la Wallonie n'est pas encore la Creuse, mais c'est pas loin. Deuxième chose, pay for value, ça c'est vraiment très important aussi. Donc je vous disais, le modèle, il est uniquement basé sur le volume d'activité. Donc on fait des lits, on fait des nuits, on voit des consultations, on est payé. Si on voit moins de gens, ben on est moins payé que l'année précédente. Si on hospitalise moins de gens, on est moins payé. Alors ici, on a par exemple, nous on a décidé de donner l'année passée, on essaie chaque année d'avoir un objectif un peu qualité, de diminuer la durée de séjour de manière importante, parce qu'on avait des durées de séjour assez importantes par rapport à la moyenne nationale. Alors on s'accroche, on mobilise tout le monde, on demande qu'on voit les gens plus vite, on organise tout pour que... ils étaient à peine rentrés, ils avaient déjà leur projet de sortie, alors qu'ils étaient encore complètement délirants. Donc, voilà, on travaille bien. Et puis après, le comptable nous dit, ça ne va pas, pourquoi vous avez diminué votre durée de séjour de 50%, notre nombre de journées est en train de chuter drastiquement, vous arrêtez ça tout de suite, vous laissez les gens tranquilles, vous les gardez 3 semaines de plus. Voilà. Donc, c'est uniquement du pay for volume. Tout ce qu'on essaye de faire autrement, on se retrouve coincé. Et donc, il y a la notion de pay for value à côté du pay for volume, donc de qualité, de paiement pour la qualité. Donc, le ministère est en train de créer deux instances, une instance de conseil et une instance de contrôle sur la qualité hospitalière, mais qui n'aura une mission que négative, c'est-à-dire qu'ils pourront dire, la mission de contrôle, vous ne respectez pas ça, vous perdez autant de pourcents de votre budget. Mais nous, on voudrait bien qu'ils aient un contrôle positif, c'est-à-dire qu'ils disent, le prix de journée sera augmenté d'autant si vous disposez de tel et tel élément qualité. Notre hôpital est accrédité d'une accréditation canadienne, donc on a toute une série de critères qualité qui sont remplis. Et donc on est prêt à discuter avec la ministre. Si on a ça ou si on a ça, si on fonctionne comme ça, sur des critères qualité internationaux, on pourrait avoir un supplément et pas, à l'inverse, être puni quand on ne fait pas quelque chose. Ce n'est pas le meilleur moyen, on sait bien, la punition n'est pas le meilleur moyen d'obtenir une augmentation de la qualité. Si on dit aux gens qu'ils ont plus de sous s'ils font de la qualité, croyez-moi bien, tout le monde va courir. Il y a la modification de l'arrêté royal 78 qui est en pleine discussion aussi. Donc l'arrêté royal 78, c'est l'arrêté royal qui définit toutes les professions de santé, ce qu'elles peuvent faire, pas faire. Un médecin peut faire ça, une infirmière peut faire ça, un kiné peut faire ça. Une infirmière peut faire ça si le médecin lui demande, un kiné peut faire ça si le médecin lui demande, il peut faire ça sans que le médecin lui demande. Donc tout ça est défini dans une loi. Ils sont en train de tout effacer et de tout recommencer. Mais donc ça va avoir forcément... des incitations financières, puisqu'il y aura toute une série d'actes, par exemple la psychothérapie, qui pourra ne plus être faite en Belgique. Il n'y a que les psychiatres qui sont remboursés pour une consultation de psychothérapie. La consultation de psychologie va bientôt avoir un remboursement partiel. Alors, comme la ministre a une vision très anglo-saxonne de la psychiatrie, elle dit que 4 ou 5 consultations de psychologue doivent suffire pour soigner tous les problèmes de santé mentale, et donc elle en remboursera 4. Mais en attendant, il y a quand même un mouvement qui se fait de la définition de qui peut faire quoi, avec quelle supervision ou pas. Et alors, dernière question qui se discute, ça c'est le loup blanc ou le monstre du Loch Ness de la finance hospitalière belge, ce qu'on appelle les honoraires purs, c'est-à-dire de ne plus faire négocier chaque hôpital avec ses médecins, vous allez me prendre 20, 25, 20, 22, 23% de cet examen, mais de dire que ce soit décidé directement par l'INAMI qui dit cet examen-là, il est fait, il y a autant pour le médecin, autant pour l'hôpital, c'est ce qu'on appelle les honoraires purs, ce qui permettrait d'avoir un financement aussi qui est plus clair pour les hôpitaux, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'un hôpital voit qu'il rentre dans le rouge, il va voir ses médecins, et dit on avait négocié 25 l'année passée, on va passer à 30 parce que sinon nous on ferme. Et donc les médecins disent bah oui, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et donc plutôt que d'avoir comme ça un système où le médecin est une possibilité de rattrapage pour les mauvais comptables de l'hôpital, ils disent les honoraires deviennent purs et donc on négocie plus ça. Voilà, donc en conclusion, vous avez compris, il y a plein d'organes de concertation, ce qui ralentit parfois un peu les choses, mais qui permet que quand une décision est prise, elle est bien prise. Il y a un vrai hospitalocentrisme où tous les budgets descendent dans les hôpitaux et c'est les hôpitaux qui redistribuent, y compris pour les équipes mobiles, y compris pour le résidentiel extra-hospitalier, y compris pour certains centres de consultation. Et alors la question du pay for volume, hein, donc la ministre dit il y a trop d'actes techniques en Belgique, il y a trop d'actes, là, on preste trop, mais il y a un système où on ne paye que les gens qui prestent, donc il y a un petit peu un serpent qui se mord la queue. Et donc, En bonne administrative, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé qu'elle limitait le nombre de médecins, comme ça elle limitait le nombre d'actes, comme ça elle diminuait le volume total. Et voilà comment faire des économies de sécurité sociale. C'est de la mathématique simple. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.